Le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire « notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur ».
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Vous êtes sur Radio Balade, accoudé au comptoir du monde. Encore une fois, cette émission est enregistrée en studio, mais nous avons bon espoir de bientôt regagner le café de fa qui rouvre ses portes en ce joli mois de juin. J'accueille aujourd'hui Marianne Larguier, animatrice de l'association La Trame. Bonjour Marianne. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Soula, le maire d'Esperanza. Et mon binôme, l'autre pilier du comptoir, Nicolas. Bonjour Nicolas.
Oh, ouais, bonjour, belle présentation, merci.
Et tu as failli être terrassé par une salade au surimi, mais tu as fini par surmonter les difficultés pour arriver jusqu'au studio de Radio Balade.
Oui, tout à fait, je vous déconseille le surimi. Hein. Très, 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 très mauvais bilan carbone, je pense aussi. Hein.
Alors, comme vous le savez, comme à tous les comptoirs, ici, on refait le monde. Avec un mot d'ordre, pas de problématique sans solution pratique, pas de souci global sans sa réponse locale. Et le souci qui nous occupe aujourd'hui, il n'est pas des moindres, puisqu'on va s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre de nos transports. Aujourd'hui, un quart des émissions humaines de CO2 est dû au transport. C'est en augmentation, car d'ici 2050, si rien n'est fait, si aucune mesure de transition n'est prise, ces émissions vont augmenter de plus de 60%. Et ces mesures, on en connaît quelques-unes. La généralisation des modes de transport doux, par exemple, en particulier le vélo, mais aussi le développement de moyens de transport collectif performants. Sur ces deux points, notre territoire est face à un vrai défi. La Haute-Vallée de l'Aude est peu densément peuplée et il faut un sacré coup de pédale pour avaler les pentes des vallées du Faby, de la Corneille ou de la Salse. Et bon courage pour le col du Pradel.
Oui, effectivement, dans une zone rurale comme la nôtre, tout le monde est confronté à cette problématique hein, pour accéder aux services de base. Hein. Donc se déplacer, c'est se rendre chez le médecin, c'est se ravitailler, aller au travail, avoir une vie sociale, culturelle. Et donc, comme tu l'as bien dit, quand on n'est pas cycliste et que la voiture ou la moto tombe en panne, on est souvent en mode débrouille. Alors la voiture, c'est un beau sentiment d'indépendance, de liberté, qu'on nous vend depuis des années, depuis des dizaines d'années à longueur de pub, et puis qu'on ressentirait presque hein, lorsqu'on déplace nos quelques dizaines ou centaines de kilos au volant d'une machine qui pèse près d'une tonne. Ce beau rêve est un peu gâché certains jours. Ce sentiment de liberté tombe un peu en rade lorsque notre véhicule tombe en panne. Et à chaque fois qu'il faut aussi remplir le réservoir de bon pétrole, pas trop local. Alors seulement on peut se demander si l'automobiliste que nous sommes n'est pas lui-même dépendant de son monstre d'acier et de plastique plus ou moins grinçant. En Haute-Vallée, plus de trains depuis quelques années, quelques bus sur l'axe principal Quillan-Limoux subsistent, des côtes sportives et des routes étroites composent le reste du paysage. Autrement dit, c'est le royaume du véhicule motorisé. Ça circule dans ce petit coin de France, même si c'est un peu plus calme en temps de Covid. Alors, honneur ici aux cyclistes du quotidien qui ne participent pas à cette pétaradante et fumante succession de voitures, camions, motos dans les gorges d'Alette ou de la Pierre-Lisse. Surtout, je leur souhaite longue vie, parce que faire du vélo en Haute-Vallée, c'est pas du gâteau. Hein. Pas de pistes cyclables pour l'instant sur les grands axes, ou alors des chemins VTT assez peu pratiques si on veut se déplacer. Je tiens à dire que moi-même, je suis un automobiliste farouche, et effectivement, ça serait bien de mettre aussi mes pratiques en accord avec mes mots, mais le vélo, hein, ça nécessite aussi quelques infrastructures pour pouvoir l'exercer de façon tranquille.
Oui, parce que ce constat, il a abouti quand même à la création d'une association qui s'appelle La Trame, qui est un réseau de covoiturage qui propose aux habitants de la vallée de partager leur trajet, justement, pour pallier à ce manque de moyens de transport doux et pour proposer une alternative au tout voiture. Au moins, on a tout voiture, mais on n'est pas tout seul dedans. Marianne, tu es animatrice de l'association La Trame. Comment ça s'est passé la mise en place de cette association? À quel besoin ça répond? Et aujourd'hui, qui c'est La Trame?
Donc La Trame, c'est une association qui est issue des conseils citoyens et élus de la Haute-Vallée de l'Aude, qui est parti exactement du constat que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire qui est peu dense, qui a des transports en commun qui sont existants mais qui ne répondent pas à tous les besoins, et surtout qu'il y a une prédominance de la voiture individuelle, et voilà, qu'on se déplace facilement, ceux qui ont une voiture se déplacent facilement sur le territoire, mais sont souvent seuls dans leur véhicule. Et face à ça, il y a des personnes, par contre, qui n'ont pas de véhicule et du coup qui sont un peu exclues, isolées. La genèse un peu de ce projet, c'est de partir de ce constat. À partir de là, l'association est allée chercher... Enfin, avant de se construire en association, un groupe de citoyens qui habitent tous la haute vallée de l'Aude depuis une trentaine d'années, sont allés chercher un peu partout des idées, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui se faisait. Et ils ont rencontré comme ça la Fédération Écosystème, qui avait mis en place un système de covoiturage solidaire à Ayen, en Corrèze. Donc ils sont allés les rencontrer, comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, pour essayer de voir comment on pouvait l'adapter à notre territoire. Et en parallèle, ils ont eu la chance de rencontrer des personnes de la région qui avaient le souhait de lancer une expérimentation de covoiturage dans le département de l'Aude. Une expérimentation de covoiturage plutôt en moyenne montagne. Donc en fait, on tombait un peu à pic et on a pu se rencontrer et le projet a pu naître. Concrètement, nous on fait la mise en relation entre des conducteurs et des passagers. On s'adresse à tous, donc toute personne qui veut s'inscrire en tant que conducteur peut le faire, qu'il fasse des trajets réguliers ou pas. Et face à ça, les passagers, dès le plus jeune âge, même... peuvent commencer, on va dire, à partir de 12 ans avec une attestation parentale, mais après 18 ans jusqu'à 99 ans, peuvent bénéficier de ces trajets. Et donc, les deux s'inscrivent à l'association, adhèrent gratuitement à la trame et indiquent les trajets qu'ils ont besoin de faire le plus régulièrement possible. Et nous, on les met en relation, donc on leur met à disposition, des passagers les coordonnées des conducteurs près de chez eux. S'ils ont un trajet, nous, on peut diffuser, que ce soit par mail, par les réseaux sociaux ou par SMS, les demandes qui sont faites. Et ensemble, ils vont se mettre d'accord pour pouvoir partager leur trajet. Notre spécificité, c'est qu'on ajoute à cela un système d'indemnisation des conducteurs par des tickets kilométriques, qu'on appelle des tickets tram. Donc ce sont des tickets que les passagers achètent auprès de la tram et auprès d'autres points relais qui sont volontaires. Donc ça équivaut à 5 centimes le kilomètre. Et le passager donc, achète ses carnets et en fonction du nombre de kilomètres qui sont parcourus, les donne au conducteur qui lui, à son tour, les dépenses dans les commerces partenaires. Voilà, on avait quand même cette volonté de favoriser aussi l'économie locale et d'inciter aussi à dépenser localement. Et donc c'est vraiment un projet de territoire pour la Haute-Vallée. Voilà.
Et donc pour le moment, combien de comptoirs de change de ces tickets tram vous avez mis en place sur le territoire?
Alors aujourd'hui, il y a certains commerces qui vendent ces tickets-là. On essaie toujours, quand on est implanté dans une commune, qu'il y ait au moins un commerce qui puisse les vendre. À côté de ça, on met aussi en place, surtout avec les communes et avec des associations, des points relais, c'est-à-dire des lieux où les gens peuvent venir s'inscrire. On a la volonté vraiment de ne pas exclure ceux qui sont en dehors des plateformes et en dehors d'Internet pour que tout le monde puisse s'inscrire. Donc on a toujours une plateforme, on peut toujours nous appeler par téléphone. Et puis pour les démarches, on peut se rapprocher de sa commune, de sa municipalité, comme c'est le cas par exemple à Esperanza où la mairie accepte de faire les inscriptions et où on peut acheter ses tickets dans un commerce. Ici c'est le tabac 22. Rue Victor Hugo, chez Jordan.
Et alors, vous avez combien d'inscrits en tant que citoyens et citoyennes sur ce réseau à l'heure actuelle? C'est des gens... c'est quelle typologie de personnes? Des personnes qui sont dans des vallées un petit peu éloignées du centre du fleuve, quoi?
Alors aujourd'hui, on a environ 150 adhérents à l'association. Ça s'est bien multiplié. On a été un peu freinés, forcément. C'est une association qui est assez récente, qui a un an. Donc, ça a été assez compliqué avec le Covid pour faire l'animation du projet, pour aller en parler dans des événements en face, faire des réunions publiques, etc. Là, ces dernières semaines, on a pu avoir des places sur les marchés. Donc, on a des bénévoles qui se déplacent tous les dimanches matins à Esperanza et tous les samedis matins à Quillan. Et vraiment, ces actions sur le marché ont permis de faire énormément d'adhésions et de faire beaucoup connaître le projet. Et du coup, bah, forcément, c'est les personnes qui se rendent à ces marchés qui ont pu s'inscrire. Donc ça nous a permis de toucher pas mal de villages. Nous, on est implantés sur les deux communautés de communes. Et donc aujourd'hui, on est quand même vachement plus présents sur la Haute-Vallée parce que bah, nos bénévoles sont tous de la Haute-Vallée, donc ont aussi leur réseau. On a une permanence à Quillan, en centre-ville, où je suis présente deux fois par semaine. Et donc il y a pas mal de Quillanais qui viennent s'inscrire parce que c'est proche de chez eux, parce que c'est facile. Beaucoup de personnes âgées de Quillan qui sont inscrites en tant que passagers. Voilà, et les conducteurs, ce sont soit des personnes qui travaillent et qui font des trajets réguliers, des personnes sans activité, des jeunes retraités qui sont volontaires pour faire des trajets, qui n'ont pas forcément des trajets réguliers à proposer, mais occasionnellement sont prêts aussi à partager leur véhicule.
Donc, est-ce que les élus, en fait, sur les communautés de communes, les élus, ils sont au courant que cette démarche-là, elle existe? Est-ce que c'est relayé, par exemple, dans d'autres mairies? Là, tu as parlé d'Esperanza, où donc on peut s'inscrire. Est-ce qu'il y a d'autres mairies? Je pense peut-être à des petites vallées un peu plus excentrées qui font aussi la publicité, en quelque sorte, autour de cette association. J'imagine qu'effectivement, en période Covid, le covoiturage, ça a dû être un peu difficile, mais est-ce que tu as d'autres éléments pour répondre à cette question?
Oui, dans l'association, parmi nos bénévoles, on a un maire d'une toute petite commune, de la commune de Kirbajou. Et donc lui, forcément, faut discuter avec des élus aussi autour de lui. Et il est présent notamment au conseil communautaire des Pyrénées-Audoises. Ce qui permet, on a pu faire des présentations au niveau de la communauté de communes. Voilà, on essaie vraiment de rencontrer les maires. C'est eux qui ont la meilleure connaissance de leur commune, de leurs habitants, des besoins qu'il y a au niveau de leurs habitants et qui peuvent relayer aussi au mieux l'information. Et donc, on a pu en rencontrer quand même, je dirais, j'ai malheureusement pas les chiffres avec moi, mais on a, je pense, au moins rencontré 20-30 élus. Et il y en a qui ont accepté de au moins diffuser l'information, que ce soit par des flyers dans les boîtes aux lettres, par les bulletins municipaux, ou d'autres carrément de s'engager à construire un point relais. Et ça, on en a dans pas mal de petits villages. Dernièrement, là, on est allé présenter notamment jusqu'à Camurac et le château de Camurac, qui est un bar-restaurant, et aujourd'hui ouvert pour pouvoir s'inscrire, acheter des tickets et également les dépenser.
Alors, comme le disait Nicolas, ça ne doit évidemment pas faciliter le développement d'un réseau de covoiturage d'être en pleine pandémie, que tout le monde reste chez soi avec les couvre-feux et les mesures sanitaires. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu artisanal le mode de mise en relation des adhérents de ce réseau. Vous allez peut-être bientôt passer à la vitesse supérieure avec un outil informatique, peut-être un site internet ou une application qui permettra de facilement trouver des covoitureurs disponibles autour de soi.
Oui, c'est ça. On a aussi fait évoluer les outils depuis qu'on est arrivé pour essayer de les rendre les plus efficaces possibles, de répondre à une demande. On souhaite quand même que le lien social soit là, qu'il y ait toujours cette possibilité d'avoir quelqu'un au bout du fil, de se rendre dans une permanence, de voir quelqu'un sur le marché. Enfin voilà, pour nous, le lien social reste primordial. Mais en effet, pour faciliter l'accès aux services, et notamment des plus jeunes, de ceux qui ont besoin que ce soit rapide, on s'est rapproché du département qui a aujourd'hui un projet de plateforme de mobilité sociale au niveau départemental, qui est en train de créer un outil informatique. Et on pourrait se présenter, on va se présenter comme une communauté de cette plateforme. Donc la Haute-Vallée de l'Aude, on continuera l'animation au nom de l'association La Trame, mais on bénéficiera de cet outil, quoi. Ce sera vraiment, l'idée c'est d'avoir un outil qui facilite la mise en relation, mais on ne veut pas substituer notre projet non plus à cette plateforme. Voilà, l'idée c'est quand même de garder les deux possibilités.
Super, bah merci beaucoup Marianne pour ces précisions. On va continuer d'explorer les solutions alternatives à la voiture individuelle, notamment se pencher sur les transports publics, mais juste après cette petite pause un peu jazzy.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Balade à l'écoute du Comptoir du Monde. Et ce mois-ci, au Comptoir, on évite les sorties de route. On discute de mobilité en Haute-Vallée de l'Aude avec Marianne Larguier de l'association La Trame et avec le maire d'Espéraza, Christian Soula. Christian, merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Nous vous avons sollicité pour que vous nous donniez des nouvelles du réseau de transport public dans la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, avant de parler des perspectives, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot du présent ? C'est-à-dire, les transports publics en Haute-Vallée, on en a un petit peu parlé dans la première partie de l'émission avec Nicolas, ont l'air un petit peu déficients, en tout cas pas forcément appropriés à la demande de mobilité des citoyens. Quel est votre constat sur le sujet aujourd'hui ?
Bon, bonjour, merci de m'avoir invité. Le constat est très simple sur le transport public en HVA. On a aujourd'hui une colonne vertébrale qui fait Quillan-Limoux, et autour, on n'a absolument rien, puisqu'on n'a que des bus pour desservir. On a doublé, à un moment donné, il y a 2-3 ans, on a doublé le nombre de bus, puisque la voie ferrée avait été abandonnée au 1er janvier 2018. Et aujourd'hui, le constat est un peu compliqué. Donc il y a les adeptes du bus, il y a les adeptes de la voie ferrée, il y a les adeptes de la voie verte, ça fait une polémique, surtout l'approche des élections départementales et régionales. Le bus n'est pas une solution en soi, puisque c'est un peu compliqué. Moi, j'ai mon fils qui le prend souvent, et les horaires ne sont pas tellement adaptés pour ceux qui veulent travailler ou autre. C'est une volonté manifeste de tuer un peu, à l'époque, ce qu'on faisait, le service public. Je rejoins donc le projet Tram, puisque c'est une solution alternative. J'étais, je pense, la première ville à signer la convention avec mes amis, donc qui est portée par Jacques Lapiquerie, le maire de Kerbajou. C'est un projet qui a été porté donc avec un budget alloué par la région, Carole Delgac, donc qui a alloué 80 000 euros sur cette année d'expérimentation. Si je me trompe, vous m'arrêtez, cher ami, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Bon, le budget, bien sûr, n'est pas mangé, puisque ce sont des gens respectueux des fonds publics. Et je les en félicite. Mais on n'a pas grand-chose aujourd'hui qui permet d'envisager un retour avec des ramifications autour de cette fameuse colonne vertébrale et qui peut-être un jour ou l'autre sera même amenée à disparaître même avec le bus.
Alors déjà pour revenir un petit peu sur l'historique, Christian, pourquoi le train a-t-il déserté la vallée ? Enfin, je veux dire, on a vu le terminus en fait du train s'éloigner du fond de la vallée petit à petit. Aujourd'hui, il est à Limoux. Pourquoi est-ce que quels ont été les arguments avancés par les pouvoirs publics ? Alors par la SNCF, je ne sais pas qui est le décisionnaire exactement dans ce genre de situation, pour que le train desserve plus ces gares entre Limoux et Axat.
Je sens que je vais encore me faire quelques amis. 2009, bon, déjà on avait une voie, nous avons une voie très vieillissante, hein, c'est pas d'aujourd'hui. 2009, il y a des fonds qui ont été alloués pour cette voie donc de Carcassonne à Quillan. Ces fonds, suite à une décision politique dans les hautes sphères, ont été alloués, ont été donc supprimés sur la Haute-Vallée et alloués au secteur de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, qui était représenté déjà à l'époque par Jean Castex, un proche très intime de Nicolas Sarkozy. Donc on a déjà pris un premier choc à ce moment-là. Ensuite, il y a une volonté manifeste de tuer la voie, puisqu'on avait à ce moment-là, dans les années 95-96, hein, on avait de mémoire 9 millions de francs qui étaient alloués chaque année à l'entretien de la dite voie. Ça a été supprimé. On a modifié les horaires, on a supprimé des passages du train et modifié les horaires. Donc on arrive le matin à 10h à Carcassonne pour partir à Marseille, en prenant un train qui part à 14h. Donc on a tout fait pour détruire cette voie. Donc l'ALF, qui est l'association donc, qui défend et soutient le train en Haute-Vallée, a réussi à maintenir la voie donc, de Carcassonne à Limoux. Et aujourd'hui, donc, la question se pose, et c'est une question qui fait beaucoup, beaucoup d'écho dans nos chaumières. en disant est-ce qu'on fait une voie verte, est-ce qu'on remet le train. Des chiffres ont été annoncés. Alors les chiffres, on a annoncé un chiffre de 70 millions d'euros pour la ligne, la remise en route de la ligne Limoux-Quillan. Ce chiffre est totalement faux. C'est la première expertise qui avait été faite, hein, et la région donc a réfuté ce devis. Et nous sommes aujourd'hui sur 52 millions d'euros, mais ce budget va encore être revu à la baisse puisque c'est beaucoup trop cher. Voilà, donc déjà on en est là. On ne parle pas de voie verte puisqu'on a des compétences complètement différentes. Moi quand j'entends ou je vois sur les réseaux sociaux des gens qui s'expriment en disant « oui, les fonds auraient dû être alloués au réseau routier ou autre », il faut savoir que donc une voie verte ou un réseau routier c'est porté par un département. Une voie ferroviaire, c'est porté par la région Occitanie-Languedoc-Roussillon. Donc c'est là, c'est pas du tout les mêmes fonds, c'est pas les mêmes provenances, c'est l'Europe. Il y a la nation aussi qui s'investit. Il y a une tripartie entre l'État, qui n'a pas encore pris sa décision, la région Languedoc, qui a dit oui et qui est porteuse du projet, ainsi que la CNCF qui est d'accord. Mais l'État n'a pas encore annoncé une décision ferme de faire revenir un train en Haute-Vallée. Et s'il y revient, ça sera en 2025.
D'accord. Et s'il y revient, ce sera sous quelle forme? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est de faire revenir un train qui passe trois fois par jour, avec une rame qui peut embarquer une vingtaine de personnes, comme à la fin de... je l'ai pris, ce train, mais c'était un exploit de réussir à le prendre. C'est-à-dire, fallait s'organiser pour réussir à prendre le train. Là, ça revient plus à du tourisme que de la mobilité, quoi. Est-ce que, vraiment, le projet qui est dans les tuyaux aujourd'hui, il répond à un besoin de mobilité, notamment en termes de fréquence de passage, qui correspond au territoire?
Alors, la volonté de la région est très simple. Bon, déjà, effectivement, vous avez raison quand vous dites « je l'ai pris, il y avait 20 personnes dedans, et encore, vous êtes optimiste, moi je l'ai vu passer, il n'y avait que le contrôleur et le conducteur, donc je le dis très franchement. Hein. » Aujourd'hui, la région, donc, on est plus sur un développement touristique. Je prends un exemple, 2 millions de visiteurs chaque année à la cité, à Carcassonne, viennent en Haute-Vallée, zéro. Donc, si on peut capter, on ne va pas être gourmand, mais si on peut capter 1%, soit 20 000 personnes. Le musée d'Esperanza fait 35 000 entrées par an. Le musée du dinosaure et du chapeau, puisqu'ils sont à côté. Moi, je me dis la chose suivante. J'ai passé un accord avec Montazel pour Montcapel. Aujourd'hui, il y a eu la création de 5-6 emplois. C'est pas si mal que ça. Je remercie Christophe Cuxac et Sonia Miel, que ce sont eux les porteurs de projet. Moi, je ne fais qu'apporter ma petite pierre à l'édifice. Hein. Je rends à César ce qui lui appartient. Je me dis, imaginons un pass entre Rennes et le château, Montazel, Esperanza, même Quillan, je dirais. Parce que quand je dis souvent à mon ami Pierre Castel, j'ai des restaurants et toi, tu as l'hôtel. Donc, on peut travailler ensemble intelligemment. Et je pense qu'il faut qu'on soit prêt, que ce soit une voie verte demain, ce qui m'étonnerait fort. Ou le retour du train, il faut qu'on soit prêt à pouvoir travailler ensemble, à accueillir des touristes dans des conditions décentes, et que quand ils repartiront sur Carca, on puisse leur offrir peut-être une petite bouteille de vin de la cave coopérative de Couisa, et qu'ils s'arrêtent à acheter un peu de blanquette chez nos amis du Mouxin. On ne pourra réussir qu'à partir de ce concept. C'est pour ça que moi j'y travaille beaucoup. On améliore on va améliorer les restaurants sur la gare à Esperanza. Et quand on parle de mobilité, la raison forte qui est invoquée aussi par Carole Delga, c'est donc d'avoir à chaque gare un pôle d'échange multimodal. Et on retrouve là nos amis de la trame. Donc tout est complémentaire, c'est pas fait en l'air. On n'a pas balancé 80 000 euros en Haute-Vallée pour dire ben on va se faire plaisir, on prend trois copains, trois copines, ils vont nous sortir un truc, des descriptions, ça servira à rien ou pas, on ne sait pas. Non, il y a un vrai projet concret qui est porté d'ailleurs haut et fort. Et moi je suis convaincu qu'on arrivera peut-être. Alors après, je pense à tous ceux qui sont dans les hauts cantons, ça va être difficile de désenclaver aussi. Et le seul qui peut répondre, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le projet tram qui est très adapté à ça. Et c'est ce qu'on fait. Hein. La tram, on n'a rien inventé. Hein. Quand on fait les courses, d'aller au canton, il va avec le voisin, le cousin, la voisine. Mais je trouve que ce projet est complémentaire donc, à l'avenue du train. Et c'est même pas une complémentarité, c'est une obligation. Parce que si j'arrive à Espérance à Quillan, je fais quoi après ?
Oui, c'est, cette question de la desserte des vallées secondaires ou des hauts cantons, elle pose aussi la question du maintien du bus, même si le train revient, j'imagine qu'ils font un réseau secondaire, et donc il faudrait aussi, pas pour autant, désinvestir dans les transports déjà existants qui sont routiers pour le moment. Donc j'imagine que c'est pensé aussi en complémentarité.
Alors, c'est pensé, je ne suis pas aussi optimiste que vous.
Je sais,
vous êtes toujours souriant, donc c'est un grand optimiste, Aurélien, mais je pose la question, comment je fais pour monter en bus au CLAT ? Comment je fais pour aller demain dans le Chalabré ou autre ? Il faut savoir que la HVA, et souvent c'est ce que je dis, c'est, ça démarre à Alet, ça termine à la Pradelle. Et puis il y a tout le reste. Il y a le reste du monde. Et le reste du monde est très mal desservi. Donc je crois que, alors, bien sûr, hein, désertification, population vieillissante, il vaut mieux faire un infarctus à Carcassonne que Artigues. Hein. On n'est pas sûr d'être rendu à Quillan déjà. Et puis on n'a rien. Donc tout ça, il va falloir que... Moi je suis un défenseur, vous le savez, du service public. Je me suis battu pour avoir un centre de vaccination sur Quillan. Les gens souhaitaient se faire vacciner, moi je ne me suis pas encore fait vacciner, mais je l'ai fait pour ceux qui le souhaitaient. On s'est battu et on s'était vu, rappelez-vous, pour nos écoles de Luxurode, de Cuisa, d'Esperaza. Alors aujourd'hui, je suis le pourfendeur des causes désespérées, j'ai pris le relais sur nos amis du service public de la Poste pour les fermetures d'agences postales et la mauvaise distribution du courrier qui n'est pas due aux salariés, mais simplement on supprime les postes, on agrandit les tournées, on ne remplace pas les gens en maladie, on fait une double tournée le lendemain. Et puis je trouve que la Poste a un concept fabuleux qui est l'agence postale communale. C'est la seule entreprise à laquelle donc, on ne paye pas le salarié, on ne paye pas les locaux et on encaisse tout le service autour. Les timbres, les recommandés, les colis. Moi, j'aimerais bien travailler comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais rien. Les salariés sont payés par la commune. Les locaux sont offerts gracieusement par la commune. On parle aujourd'hui de Maison France Service. J'ai été contacté, je me suis renseigné. C'est pas bon non plus. C'est à charge de la commune de recruter deux personnes 25 heures semaine, donc ça fait 50 heures à payer, ça fait 225 heures par mois, ça coûte un bras, et à l'échange on vous donne gracieusement 32 000 euros par an, alors que ça vous revient 40 000, et tout ça pour avoir un service où on dit aux gens, très gentiment, mais écoutez, j'ai pas la réponse, il faut que je contacte la MSA, et voilà, donc je laisse ça donc, à mon ami, et je le dis sincèrement à mon ami, hein, c'est pas une plaisanterie, Jacques Hortala, qui a souhaité donc développer ce dispositif sur Cuisa. Moi, je n'ai pas préféré le faire, puisque ça ne servait à rien d'avoir deux services publics qui se seraient côtoyés. Autant laisser donc à Jacques Hortala sur Cuisa, et puis Esperanza Cuisa, avec la trame, c'est pas loin.
Alors, on va faire un petit focus là, sur ce projet de train, de retour du train entre Limoux et Quillan. On parle aujourd'hui d'un train à hydrogène, c'est-à-dire que le projet pour relancer la ligne, aujourd'hui, c'est de proposer une innovation technologique, de faire une sorte d'expérimentation, c'est ça ?
Alors, c'est pas une expérimentation, c'est simplement ça existe déjà. Et ce train à hydrogène, donc, ils sont produits, conçus à Saint-Gaudens. Donc ça fait partie de notre territoire, hein, de notre région. Donc déjà, ça fait du travail. Moi, qu'il soit hydrogène ou autre, ça ne me dérange pas trop. Mais j'aimerais qu'il revienne, parce que si je prends par exemple le cas de Domicia, qui est sur campagne, qui exploite sur l'aval le granulat, aujourd'hui, s'ils étaient à plein rendement, on aurait une flopée plus 12 de semi-remorques qui traverseraient allègrement notre belle région, qui écraseraient nos cyclistes. Je pense que le train, puisque nous avons un quai de chargement à Montazel, je pense que le train peut être un facteur de développement économique. Nougalette s'en va. Aujourd'hui, bon, Nougalette s'en va, les élus se réveillent, puisqu'il y a les élections. Normalement, on se réveille toujours avant ou après. Nougalette, ça fait 4 ans qu'ils doivent partir, on le sait. Pourquoi ils partent ? Ben parce qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement. Ils rejoignent un pôle plus intéressant, donc qui est à Carcassonne, du côté très bien porté par l'agglo, par Régis Banquet. Il y a de la création d'emplois. Et aujourd'hui, on dit, ben, ils s'en vont. Eh bien oui, ils s'en vont, mais qu'est-ce qu'on a pu faire ? Rien. Moi, quand j'ai travaillé jeune et gamin à Montblason, on allait porter des colis à la gare. Et ça prenait le train, et ça empêche des camions de rouler. Ça, on a un réseau routier, et je pèse mes mots, déplorable. Il y a des trous partout, c'est hyper dangereux. Je rejouais ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant donc du vélo et autres. Si je prends les 5 cantons qui sont donc la Haute-Vallée en démarrant par Couisa, de mémoire, en randonnée ou en VTT, c'est 700 km de piste. Mmh. 700 km de piste. Alors, faire du vélo, on peut. Après, bon, se déplacer pour aller bosser, c'est autre chose. En randonnée. Voilà. Si on veut traverser Couisa les jours à midi en grande influence, ça peut se révéler dangereux. Donc, le but du jeu, c'est quoi ? C'est de limiter la circulation au maximum, la circulation routière. La tram en est un exemple. Le train peut amener, pour un développement économique, pas mal de choses. Je vois notamment les grumiers. Vous savez qu'aujourd'hui, on a ce problème de grumier. Quand on croise un grumier dans certaines gorges, on a intérêt à se serrer. Hein. Donc, si on arrivait à limiter la production de CO2, en supprimant plus ou moins le transport routier, et j'ai compris ce que vous disiez tout à l'heure, on est tous très attachés à notre voiture. La voiture, c'est notre bébé. Mais si on arrivait à supprimer tout ça et passer par quelque chose qui soit plus confortable pour l'écologie, parce que moi j'ai connu l'époque où on disait c'est un écolo, c'était voilà, on se moquait de lui, il mangeait de l'herbe, bon voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'écologie, c'est pas du tout ça. C'est une obligation, c'est un devoir et qui doit être porté par tout le monde. Et je peux vous en parler puisque je suis vice-président chargé des ordures ménagères à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises. C'est une catastrophe. Donc moi je pense que le train peut amener, avec un pôle multimodal, qu'il va falloir réfléchir, peut-être mettre en place un système interne de navette hein, pour amener nos anciens chez le médecin. Vous savez que, je vais lancer une polémique et vous pourrez la vérifier, la moyenne d'âge hein, diminue quand on s'écarte des centres médicaux. À Haute-Vallée, c'est 2 ans de moins. Voilà. En Haute-Vallée, on vit 2 ans de moins qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand on a mal aux dents, le dentiste, il n'y en a plus. Et puis, on ne va pas faire 60 km pour se faire soigner une dent. Donc, on prend un petit cachet. Et puis, quand on a mal ailleurs, c'est pareil, on dit ça passera. Et on ne va pas chez le médecin ou ailleurs. Chez un naturopathe ou autre, parce qu'on n'a pas ce moyen de locomotion. Et on est en train de perdre, donc, sur notre longévité, ces 2 ans aujourd'hui.
Ça, c'est des arguments qui peuvent faire pencher la balance. Vous disiez tout à l'heure que la décision revenait à l'État, en dernière instance, sur ce genre d'investissement. Ça, c'est le genre d'informations qui pèsent, j'imagine, dans la balance, parce qu'on parle de qualité de vie, mais on parle carrément de développement ou de sous-développement d'un territoire.
Tout à fait. Et il faut en plus que l'État garde la compétence de la SNCF. Parce qu'il y a un truc qui peut se passer qui est très sympathique, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui est favorable aux lignes secondaires. Mais il ne faut surtout pas qu'il bascule la compétence à la région. Sinon, ça va être imputé sur les budgets de la région. Il faut que l'État garde sa dominance là-dessus et paye. Et moi, je suis un grand fanatique du train, parce qu'en plus, je vais vous expliquer, quand je vois l'état de nos voies remplies d'herbes, sales,
c'est déjà une voie verte. Hein.
Ah ben elle est plus que verte.
Clairement.
Et puis en plus, elle est polluée. C'est pollué. c'est pollué. Donc il y a peut-être des choses à faire.
Ouais, moi, je voulais rebondir sur ce contexte, hein, parce que il y a le volontarisme qui peut émaner des élus locaux, mais il y a aussi les décisions un peu supérieures, on va dire, en termes de hiérarchie, notamment au niveau de l'Europe, hein, puisqu'on sait que le rail est ouvert à la concurrence, hein, c'est acté. Il y a quand même, entre 2019 et 2033, il va y avoir des chamboulements au niveau des trains régionaux, justement, hein, avec une mise en concurrence du transport express régional en France. Et donc, même si tout le monde assure dans les milieux autorisés qui s'autorisent tout seuls que ce ne sera pas sauvage, en fait, il va quand même incomber à l'État et aux régions françaises de choisir à quel opérateur elles souhaitent confier une délégation de services publics. Donc, ça peut être la SNCF, mais ça peut être aussi un concurrent privé. Alors, l'analyse qui est faite depuis longtemps dans cette émission, c'est qu'on voit très bien que là où il y a de l'argent, il y a des gens qui viennent prendre les secteurs rentables, les sections rentables, ici du ferroviaire, hein, mais ailleurs c'était les autoroutes. Et puis là où effectivement il y a moins d'argent à se faire, comme peut-être par exemple ce qui serait le cas en Haute-Vallée, eh bien là on se retrouve avec du coup la puissance publique qui doit investir. Via éventuellement la SNCF ou via d'autres fonds. Donc on peut quand même apporter une note aussi un petit peu d'informations autour de ce contexte général qui surplombe un peu, malheureusement, hein, on peut tous le regretter, puisque on parle de notre qualité de vie, on parle de notre mobilité, on parle d'aller voir le médecin, de se déplacer pour travailler, et finalement, au-dessus de nous, eh bien, on a ce couperet un peu, qui décide de grands plans, hein, pluriannuels, et qui, donc, à part le biais de l'ouverture à la concurrence, crée un marché qui sera forcément défavorable, toujours aux petits, quoi.
Et d'ailleurs, à ce sujet, on peut saluer la création, il y a 2 ans, de la coopérative RailCoop, qui s'est mise justement en tête de s'insérer, de s'adapter en fait à cette ouverture du marché, à la concurrence, en proposant un nouvel acteur du transport ferroviaire, mais un acteur coopératif, composé de citoyens, d'élus, de personnalités de la société civile, de l'économie sociale et solidaire, afin justement de pallier à la disparition de ces transports publics. Donc on a aussi des alternatives qui peuvent se monter, il y a toujours des possibilités de s'organiser. Alors évidemment, c'est à des échelles, c'est industriel, hein, le rail, donc ça met par contre beaucoup de temps à se mettre en place, et ça se développe moins vite que la disparition des lignes. Donc c'est quand même un chantier assez important. Nicolas, d'ailleurs, sur le train à hydrogène, tu avais peut-être 2-3 éléments pour nous aider à comprendre ce que c'est exactement, si on parle là d'une fausse bonne idée écologique, ou si effectivement on peut avoir là un moyen de transport vraiment efficace, performant en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Oui, bah alors j'ai pris quelques infos sur le train à hydrogène, puisque j'avais eu cette discussion qui était revenue à nos oreilles, justement au niveau de la réouverture éventuelle d'une ligne en Haute-Vallée. Est-ce qu'il y aurait un train à hydrogène qui serait testé ou pas? Donc je me suis un peu intéressé à cette question, parce qu'elle est un peu dans l'air du temps, là, au niveau de trouver des alternatives au pétrole, en fait, puisqu'on a encore quand même des TER qui fonctionnent aussi au diesel, hein, c'est électrique et diesel. Et donc les prototypes qui ont été commandés pour la région, notamment Occitanie, hein, devraient arriver en 2025. Donc l'objectif annoncé, c'est de réduire l'empreinte carbone des transports. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est peut-être pas si simple que ça, puisqu'effectivement cet hydrogène qui est censé remplacer le diesel et faire tourner les moteurs des futurs TER, il faut quand même le produire. Donc aujourd'hui en France, la consommation actuelle des transports, hein, tout confondu, c'est 54 millions de tonnes équivalent pétrole. Et à titre de comparaison, aujourd'hui on produit déjà 1 million de tonnes d'hydrogène, mais c'est vraiment pour des fins industrielles pour l'instant. Alors, est-ce que c'est possible de remplacer le pétrole par l'hydrogène dans une certaine mesure? Oui, mais à quelle échelle ça va pouvoir se jouer? Alors, je fais un petit détour par la case science. Alors, l'atome d'hydrogène H, noté H, c'est le plus petit, le plus simple et le plus léger des atomes. C'est le premier élément atomique du tableau de Mendeleïev. Vous savez, au lycée, on avait ce petit tableau en salle de chimie avec tous les éléments atomiques. Et puis, ils étaient rangés par numéro, c'est-à-dire par leur nombre de protons et d'électrons. Donc l'atome d'hydrogène, il y a un seul proton et un électron périphérique. C'est l'élément qui est le plus abondant dans l'univers. Alors jusqu'ici, tout va bien. L'hydrogène, pourtant, n'est pas disponible sur Terre sous sa forme pure. Il s'accroche, et c'est là le problème, avec d'autres atomes. C'est le problème, mais c'est en même temps ce qui nous permet de vivre, parce que ça crée des molécules variées et abondantes, telles que H2O, la molécule d'eau, et CH4, le gaz naturel méthane. Alors, si c'est abondant, comme l'eau des océans, quel est donc ce problème avec l'hydrogène? Eh bien, il faut casser. Il faut casser les molécules. Il faut casser la molécule d'eau, par exemple, dont je viens de parler, pour récupérer l'atome d'hydrogène qu'elle contient. Alors, c'est cette séparation d'hydrogène avec d'autres atomes qui n'est pas une mince affaire. C'est possible, mais c'est compliqué. L'industrie l'utilise déjà. Donc, effectivement, 1 million de tonnes produites en France, 75 millions de tonnes dans le monde en 2019. Alors, monsieur Jean Covici, qui est un enseignant à l'école des mines et qui est assez connu sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où il fait des conférences, précise où se situe le problème. Il nous explique, pour le moment, la technique employée, sauf rarissime exception, s'appelle le reformage du méthane. C'est comme ça qu'on arrive à récupérer l'hydrogène. Pour cela, on mélange ensemble de la vapeur d'eau et du méthane. On chauffe l'ensemble très fort, donc en brûlant du gaz. Et on obtient bien de l'hydrogène gazeux dans cette affaire, mais aussi, attention, du CO2. Alors pour une tonne d'hydrogène, de dihydrogène produite, il y a 10 tonnes de CO2 qui partent dans l'atmosphère. Donc, utiliser cet hydrogène dans une voiture, dans un moteur, donne des émissions par kilomètre qui sont à peu près identiques, en fait, à celles de l'essence. Au lieu d'être créé dans le moteur de la voiture, le CO2 l'est dans la production de l'hydrogène, mais ça se passe avant. Donc, on ne le voit pas.
On délocalise, en fait, l'émission de gaz à effet de serre.
Exactement. Alors, il existe quand même d'autres techniques qui sont moins polluantes. Par exemple, l'électrolyse. Donc là, l'électrolyse, c'est une technique très connue. On sépare les atomes d'oxygène et d'hydrogène, dans ce cas, qui constituent la molécule d'eau grâce à un courant électrique. Sauf que là encore, y a une limite, c'est la limite physique, dont on ne pourra pas se dissocier. L'énergie nécessaire pour séparer l'hydrogène de l'oxygène auquel il s'accroche solidement, c'est exactement égal à l'énergie que l'hydrogène va fournir quand il va brûler. Et quand il va brûler, qu'est-ce qui va se passer pour cet hydrogène ? Eh bien, il va s'associer de nouveau avec l'oxygène, et c'est pour ça que ça reforme de la vapeur d'eau, en fait. Donc, est-ce que c'est une énergie verte ? Eh bien, la réponse est non, malheureusement, pas pour l'instant, en tout cas. Comme il l'écrit ce cher monsieur Jean Covici, pour que l'hydrogène soit vert, il faudrait pratiquer donc l'électrolyse de l'eau, qui pour l'instant représente 4% de la production d'hydrogène. Il faudrait la pratiquer, mais avec de l'électricité qu'il appelle bas carbone. Parmi l'électricité qu'il appelle bas carbone, on a donc le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, et il nous dit que le solaire, c'est déjà presque trop carboné pour lui à cause de la fabrication du panneau, en fait, et des échanges, enfin, du ratio que ça apporte en hydrogène produit. Mais, il ajoute, il y a un petit problème d'ordre de grandeur. En France, pour remplacer tous nos carburants par de l'hydrogène qu'on aurait obtenu par électrolyse, par exemple à partir d'électricité éolienne, il faudrait multiplier par 15 la puissance installée en éolienne en France. Et il faudrait, si on ne met pas des éoliennes, mais si on installe des réacteurs, par exemple, nucléaires, doubler la production électrique totale. C'est l'équivalent, dans ce qu'il raconte, d'environ 18 EPR à construire, nouveaux. Donc on voit que là, déjà, à grande échelle, l'hydrogène, ça va être dur de trouver cet hydrogène comme solution. Si on le suit dans ses conclusions, donc il est peu probable que ce soit la solution verte et magique qui nous sorte du pétrole. Et il n'est pas le seul à formuler, bien sûr, cet avis. Alors, il nous parle aussi un petit peu de la voiture électrique, puisque là, on a dit que dans la Haute-Vallée, on se déplace beaucoup en voiture. Alors, il faudrait vraiment une autre chronique pour en parler plus complètement. Mais il y a un point de vue qui est clairement énoncé. Alors, après avoir émis un certain nombre de conditions nécessaires au remplacement du parc automobile français par une flotte de voitures électriques, notamment du coup aussi la construction d'EPR en plus, voilà, du même ordre, c'est-à-dire 18, il conclut « Penser que nous pouvons procéder à l'électrification rapide de véhicules s'ils ont les mêmes caractéristiques hein, en nombre, c'est-à-dire si on en a autant, s'ils pèsent aussi lourd et s'ils ont autant de puissance, en conservant une mobilité bah, équivalente à celle qu'on a, c'est-à-dire on fait 13 000 km à peu près en moyenne par an et par voiture, et sans augmenter les émissions de CO2, il nous dit juste c'est se bercer d'illusions. Donc lui, ce qu'il envisage pour le moment comme solution individuelle à ce problème. Renouveler le parc automobile, mais changer la direction, c'est-à-dire ne plus produire de SUV, par exemple, qui sont les voitures les plus polluantes, mais les plus vendues en France. Réduire la taille des voitures. Diminuer la consommation. Il nous dit que c'est technologiquement possible autour de 1 à 2 litres au 100 km/h, avec bien sûr des modèles qui ne seraient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, enfourcher, eh bien, quoi ? Un vélo pour se déplacer. C'est le véhicule de l'avenir. D'ailleurs, le marché du vélo, en 2020, a grimpé, a fait un bond phénoménal, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des ruptures de stock dans un certain nombre de pièces. J'ai entendu récemment que Shimano, par exemple, ceux qui produisent des dérailleurs notamment, eh bien, ils sont en rupture de stock sur un certain nombre de pièces. Donc, l'ingénieur, là, nous, en fait, rejoint un axe, et c'est assez rigolo pour moi, du journal qui s'appelle La Décroissance, je ne sais pas si vous connaissez ce journal, qui depuis sa création, en fait, défend le vélo partout où c'est possible. Alors, on les a appelés, je ne sais plus, les Khmer Verts, je ne sais pas quoi encore comme insulte. Enfin, finalement, hein, finalement, c'est peut-être eux qui ont raison. Pourquoi faire compliqué quand on doit faire simple ?
Et on voit ici aussi que ce n'est pas une question de changement de technologie avec les mêmes moyens de transport. On est sur un besoin profond de changer nos habitudes afin d'avoir une mobilité plus douce. Et ça nous fait une transition parfaite pour écouter ce morceau de Plume et Philomic, les Toulousains, qui nous parlent de l'urgence de ralentir.
C'est vraiment la colonisation du temps humain, par le temps économique. C'est un temps sans racines, sans société, sans histoire.
À l'heure d'un énième millénaire où toujours plus vite, règne au maître planétaire où les consciences court-circuitent, course-poursuite vers un bonheur qui s'évanouit tel un mirage au fil du temps et des langueurs, seules s'épanouit leur engrenage, peu d'éclairage sur leurs écrans, aussi plat que leur morale, virage ou chemin glissant, signal que l'arrêt sera total, otage de nos contradictions, pris dans un rythme qui s'accélère, nos rages se taisent sous addiction, le bref instant d'une bouffée d'air, allez faites vite, encore plus vite, ne freinez sous aucun prétexte, surtout ne prenez pas la fuite, quitte à tressaillir dans ce train express, quotidien presse, empreint de stress, pris de vitesse, moi dans l'ivresse, mais tel l'Everest, le mur se dresse, combien il reste proie en détresse, supporter encore longtemps, c'est un poids excessif face à ça, comme vouloir payer le montant de plusieurs vies en une seule. Le temps file donc à quoi bon devoir le poursuivre à toute allure. Chaque moment présent est un don qui ne peut s'apprécier dans le futur.
Si quelque chose doit accélérer, ce sont les idées, pas les personnes.
Souffler, faire une pause. Est-ce vraiment du temps perdu ou est-ce plutôt saisir une chance là où la frénésie perdure des choses étaient aux hivers rudes de latitude en longitude. Savourer quelques minutes quitte à faire durer l'interlude du prologue à l'épilogue. Chacun écrit son propre livre, troc tombolite contre une pirogue. Vogue en eau vive, soit le pilote des fleuves immenses aux ruisseaux minces. Explore à chaque mouvement de rame, abreuve tes sens de connaissance. Honore l'éclat de moments rares à la mémoire des temps passés, des temps perdus, des temps absents. De ces instants inconscients, de ces présents inexistants. De toutes ces fois où l'impatience nous a détournés de notre voie, où le doute s'accroît autant que les ans. Écouler sans autre choix, alors marquer une pause. Car à l'heure ou en retard, au fond, dites-moi quelle importance. Marquer une pause, marquer une page comme une parenthèse dans l'histoire. Qu'on s'oppose à leur matraquage, loin de leur vitesse, de leur victoire.
Des journées longues pour des vies courtes, des tournées de l'autre, on dévie tous, dérive des prix, mépris d'une course. Pour qui, pourquoi, si ce n'est la peur que les aiguilles tournent. Des parents de beurre, je voudrais rectifier les trajectoires, effarer de voir les rêves, l'espoir d'étaler le soir. Asphyxie, pris de vitesse, ajoute des coudes sur chaque trottoir, des chants de tristesse, de grand business, le prix d'avoir son charme notoire. Le revers de la médaille d'une spirale infernale, époque vénale, écrase les masses sous rythme et code insoutenable. Écroué, mettre du dans le manque, combien d'existence s'accumule en une, tout speed depuis l'enfance, des turbulences, état de tumulte en vue, on ne savoure pas le moindre instant, addict d'extrême sensation, serait-ce fatal de s'arrêter. Ne serait-ce qu'un temps, suis la cadence ou bien périsse. Si les pauses sont comme maison d'arrêt, paraît que la raison ralentit l'impression de vivre. Les quatre saisons bâclées, voguées en vain, errer sans but. Qu'importe qu'on maintient l'allure, mais si l'impact lui suit la chute, faudrait peut-être ralentir, ça urge.
La modernité, ce n'est pas d'aller plus vite, c'est d'avancer avec plus de sagesse.
Ça urge. hurle de souffrance au cœur, nos subconscients meurtris. Qu'on croit que chaque minute se subit quand on voit le temps comme un ennemi. On se bâtit de découvertes, fruit d'un voyage intemporel. La seconde est précieuse, mais dure de garder ne serait-ce qu'un instant pour elle. Tout s'accélère et l'air en devient irrespirable. Besoin d'une pause méditative, d'une minute silence évasive. De rien puiser l'ivresse vitale dans ce brouhaha rébarbatif. Du plus simple, germe le meilleur dans une patience réparatrice. Apprendre de nos semblables dans le but de se connaître vraiment. Au gré d'échanges et d'expériences, marquer ces moments de nos présences. C'est ahora ou nunca, demain n'est pas, hier n'est plus. Respectant chaque étape, marquer une pause là où le vacarme s'étue. Recoller chaque morceau au puzzle d'une nature détruite. Et renouer à l'essentiel pour en voir la fracture réduite. Retrouver cette harmonie perdue ainsi qu'une place dans ce monde. À l'heure où tout s'oppose, comprend qu'un temps d'arrêt s'impose.
Et vous êtes de retour sur Radio Balade 101.8 FM et en direct et en podcast sur radiobalade.net. Vous venez d'écouter Plume et Philomic, toulousain d'ailleurs, comme Bruno Izarn, dont on a écouté un petit peu plus tôt dans l'émission, le morceau Jungle Hippie Shake, issu de son dernier album Moon Jazz, sorti l'an dernier. On va conclure cette émission par un dernier tour de table. Donc on a parlé aujourd'hui de mobilité dans la Haute-Vallée de l'Aude, on a parlé de covoiturage, on a parlé du retour du train. Pour revenir justement sur le covoiturage, Marianne Larguier, donc tu es animatrice de l'association La Trame, est-ce que tu peux nous rappeler les moyens par lesquels on peut intégrer ce réseau de covoiturage, quelles en sont un petit peu les modalités pratiques d'accès, et puis rappeler le principe de ce réseau.
Alors, pour pouvoir être intégré à la base de données en tant que conducteur ou en tant que passager, il faut s'inscrire à l'association gratuitement. Donc là, conducteur et passager remplissent une fiche d'inscription. Le passager fournit un justificatif d'identité, le conducteur sa carte grise et son permis de conduire. Pour pouvoir s'inscrire, donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous rendre dans un point relais le plus proche de chez vous. Vous pouvez consulter la liste sur notre site internet, donc www.latrame.fr. Vous pouvez également nous retrouver dans nos permanences, donc à la pépinière d'entreprise à Pieusse, à la sortie de Limoux, après le Leclerc, direction Carcassonne. Donc j'y suis les lundis et mardis, sur les horaires de bureau. Ou alors à la maison Épi, donc à côté du pont Suzanne, à Quillan, les mercredis et les jeudis, toute la journée. Vous pouvez également nous contacter par téléphone pour plus d'informations, 07 86 74 05 85. Ou bien par mail contact@latrame.fr. Ou enfin nous retrouver sur les marchés, donc les samedis matins à Quillan et le dimanche à Esperanza. Pour finir, donc comme je disais, les passagers doivent échanger leurs euros contre des tickets kilométriques, les tickets tram, donc des carnets, qui permettent de faire jusqu'à 100 km et qu'ils achètent au prix de 5 euros dans les points relais. Pareil, vous pouvez retrouver la liste des points de vente sur notre site internet. Et pareil, le conducteur pourra retrouver la liste des endroits où il peut dépenser ses tickets également sur notre site internet. Voilà.
Alors Marianne, je crois que vous vouliez aussi nous faire part d'une réflexion, on en parlait un petit peu en antenne, sur, on a beaucoup parlé là de moyens de transport, comment est-ce qu'on peut accéder au train, comment est-ce qu'on peut accéder au bus, comment on peut prendre son vélo pour aller via de possibles voies vertes ou de voies cyclables si on en développe dans la vallée. Et vous parliez, vous, d'essayer de prendre un peu le sujet à l'envers, de se dire comment est-ce que la mobilité peut venir en fait aux citoyens, comment est-ce que les moyens de transport peuvent arriver à l'usager.
C'est ça, en fait, toute la question de la mobilité. En général, ce qu'on se pose comme question, c'est comment accéder aux services, comment faire mes courses, comment travailler, comment aller chez le médecin, ou tout simplement comment créer du lien social, comment aller boire le thé le dimanche après-midi avec ma copine Janine et Karima. Voilà, la question finalement, c'est tout cet accès aux services et aux liens sociaux. Et en fait, on se demande souvent, surtout en territoire rural, on se dit souvent « Ah, mais on est dépourvu, on n'a pas possibilité de se déplacer, il faut pouvoir avoir du coup un transport pour s'y rendre, etc. » Une réflexion qu'il faut avoir aussi aujourd'hui avec toutes ces réflexions de transition écologique, c'est aussi comment limiter aussi les déplacements et comment faire venir à nous aussi tous ces services-là. pour garder cette même qualité de vie, parce qu'on est aussi bien heureux dans nos campagnes, et c'est aussi pour ça qu'on aime y vivre. Et ça passe par des services ambulants, à domicile. Je pense aujourd'hui à la Maison Paysanne qui a mis en place une épicerie ambulante qui se rend dans les villages où on peut manger les bons produits de notre territoire et qui arrivent directement chez nous. Enfin, plus proche de chez nous, en tout cas. Ça passe aussi par tout le travail des personnes qui vont rendre visite aux personnes âgées aussi pour pouvoir leur apporter du lien, s'occuper d'elles, etc. Pour des personnes qui ont souvent plus de difficultés à se déplacer, qui en fait ne rechercheraient même pas, n'auraient pas forcément le souhait de se déplacer, mais ont ces besoins-là quand même. Ça vaudrait aussi le sujet pour une autre émission, mais il ne faut pas oublier que la mobilité, ça va dans les deux sens. Ça va par le déplacement et aussi par le non-déplacement, finalement.
Oui, c'est ça. On a peut-être oublié de le préciser, mais le transport le plus vertueux, c'est celui qu'on effectue pas, finalement. C'est celui qui a zéro impact carbone. C'est quand on sort à pied de chez soi pour accéder à ces services publics, à cette économie du territoire qui est à portée de main. Donc ça, j'imagine que c'est un des soucis au niveau de la mairie d'Esperanza. J'imagine cette relocalisation des services. On l'a vu aussi avec le combat que vous avez mené, Christian Soula, contre la fermeture d'une classe de maternelle. J'imagine que ça, c'est un souci de tous les jours aussi, de maintenir les services publics sur le territoire pour éviter tous ces transports finalement obligés pour aller à la poste, pour aller à l'école en dehors de la commune, pour aller au centre des impôts, à Limoux, etc.
Effectivement, c'est un gros souci, le service public. Moi, je suis un vrai défenseur du service public, puisque je me dis que le jour où on n'aura plus de médecins, et le médecin, d'ailleurs la médecine, devrait faire partie du service public. Parce que les gens font des études, hein. À l'époque ça coûtait cher, aujourd'hui c'est plus ou moins... J'ai ma fille qui est en sixième année de médecine sur Limoges. Elle a droit à des bourses et mettons qu'elle touche pendant 3 ans les bourses, elle s'engage à aller exercer pendant 3 ans pour rembourser ça dans un territoire rural. Quand j'ai rencontré les responsables de la médecine sur Limoges, ils m'ont dit la désertification médicale sur Limoges et sur tout ce coin-là démarre après le panneau Limoges. Voilà, donc quand on se met à 100 mètres après le panneau, on est considéré un territoire rural. Je pense qu'on devrait peut-être à un moment donné obliger les médecins, comme certains pharmaciens qui ne peuvent pas ouvrir où ils veulent, peut-être de venir faire un petit stage chez nous. Et je rejouais ce qui vient d'être dit parce que c'est hyper important. Imaginons, soyons fous. Et ça existe, ce dispositif. Il existe en plus. Il n'est pas utilisé, mais moi je vais y travailler à partir de septembre puisque... Là, j'ai pas le temps et cet été, ça va être encore plus compliqué. Mais en septembre, on va s'y mettre. Hein. Imaginons 2-3 médecins dans un camion, petit fourgon, avec un peu de matériel. Imaginons qu'on puisse être le lundi sur AXAT. Enfin, AXAT, ils ont la maison médicale, la maison santé. Mais imaginons qu'on puisse vadrouiller sur Bugarache avec un petit camion. Et ça commence à se faire déjà. Et je remercie donc Jean-Pierre Munich, le responsable départemental de la mission locale. La mission locale a frété un van et vient à la rencontre des jeunes demandeurs d'emploi sur le secteur. Donc on rapproche le service du public, et c'est ce qu'on vient de dire. L'épicerie paysanne, moi j'ai prêté, et solidaire, j'ai prêté pendant 7-8 mois un local à titre gracieux sur Esperanza pour permettre pendant la Covid ou autre, et puis même ça ne me coûte rien et ça rend service à tout le monde. Je rebondis aussi sur le CIAS, au niveau intercommunal d'action sociale, l'accompagnement et aux personnes âgées sur le maintien à domicile, c'est hyper important. Dans 9 ans, on va avoir une flopée de personnes âgées qui pourront rentrer à maison de retraite. Il n'y a pas de place, hein. Il n'y a pas assez d'EHPAD. Ça coûte 2000 euros par mois. Les retraites seront de 800 ou 900 euros pour certaines personnes. On ne peut pas se le payer. Donc on travaille la résidence autonomie, on travaille pas mal de choses. Et la semaine prochaine, je fais un flash et je mettrai en lumière les gens qui travaillent donc sur l'aide à domicile, parce que c'est un métier qui est dur. C'est un métier, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Et je porte avec Anthony Chano du Val du Fabi, nous portons un projet au niveau de la communauté de communes, de pouvoir faire rembourser les frais kilométriques à toutes les personnes qui sont sur le maintien à domicile. Et ça, on s'engage, on essaiera de faire passer, c'est peut-être pas énorme, mais ça va permettre peut-être aussi de rendre ce métier un peu plus attractif. Et je terminerai en disant que je suis très content parce que j'ai appris plein de choses sur l'hydrogène. On a eu droit à un joli cours sur l'hydrogène, maintenant je m'en méfierai un peu plus. J'aurais peur que le train me saute, qu'il y ait une explosion ou autre, mais ça avance, les choses avancent. Je pense que la région, le département sont conscients de pas mal de choses, et aussi, et je remercie les gens qui, comme vous, pouvez nous donner la parole à tout le monde, parce qu'il y a aussi maintenant, on est quand même dans quelque chose de participatif. À l'époque, il y avait un maire, hein, ça faisait peur à tout le monde, on rentrait dans le bureau en tremblant. Moi, mon bureau est ouvert et j'essaye d'y être le moins souvent pour être sur le terrain le plus souvent possible, c'est pas évident. Voilà, et je vous remercie beaucoup de votre invitation parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce débat-là. Merci.
Bah, c'est un plaisir pour nous aussi. Et merci d'ailleurs, Maître Nicolas, pour la leçon sur les petits atomes d'hydrogène. Voilà, merci beaucoup pour ce focus.
Pas de problème.
Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Balade sur le 101.8 FM et radiobalade.net. Restez à l'écoute de notre antenne et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Comptoir du Monde. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous.